Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 250 ans, jour pour jour, mourait l'un des plus grands auteurs du théâtre français, Marivaux, et Franck Ferrand a choisi de lui rendre hommage aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est vrai que Marivaux compte parmi les plus grands auteurs de notre répertoire, et en même temps, il y a tellement de légèreté dans ses situations, il y a tant de grâce dans son style, tant de finesse dans ses personnages, que le mot grand résonne un peu étrangement lorsqu'on essaie de le lui appliquer. Disons brillant, si vous voulez, et charmant, et peut-être tout simplement génial.
Marivaux est l'auteur de nombreux chefs-d'œuvre.
Oui, en effet, Le Triomphe de l'amour, Le jeu de l'amour et du hasard, Les fausses confidences, sans oublier ma pièce préférée, Arlequin poli par l'amour, qui réunit ce qu'il y a de plus frais, de plus agréable dans la comédie française et dans la comédie italienne. Bienvenue aujourd'hui dans un monde éloigné de toute forme de laideur. Si vous voulez, Julia, nous n'avons plus qu'à marivauder.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Je suis prêt à prendre le pari, hélas, que cet anniversaire va être le plus oublié, celui qui passera le plus inaperçu de toutes les commémorations de cette année 2013. Il y a 250 ans donc, mourait Monsieur de Marivaux, la grâce et la fragilité d'un papillon. La comédie française vient de donner plus de 1600 fois le jeu de l'amour et du hasard. Alors est-ce qu'elle va rendre hommage ce soir à Marivaux et l'académie qui fut son refuge et la joie de ses vieux jours? Je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que peu de gens parleront aujourd'hui de Marivaux. Il est pourtant resté présent dans les manuels scolaires, dans les éditions de petits classiques, au répertoire des grandes compagnies et dans les conservatoires, dans tous les cours d'art dramatique. Marivaux demeure. Il demeure, mais un peu en demi-teinte. Pour moi, son univers est un mélange de fantaisie à la Watteau et de tréteaux italiens. Watteau d'abord et surtout, un coin de parc aux ombrages propices avec une fontaine et une statue de Cupidon pas loin et de frais personnages un peu évanescents qui devisent amoureusement en domino de soie nacrée. Et puis la comédie italienne, Arlequin, Sylvia, Trivelin, trois bouts d'accessoires, un petit masque, un caraco brodé ou bordé de fourrure, des effets à la fois très riches et très périssables. On parle de Marivaux. Marivaudage, autant peut-être davantage finalement que de Marivaux. Alors, qu'est-ce que le marivaudage? Un badinage galant, léger, vaguement inconsistant, un peu précieux parfois, presque toujours superficiel, un discours amoureux sans profondeur évidente, mais gracieux, charmant, plein d'une fraîcheur naturelle et vive. Les pièces de Marivaux traitent de la métaphysique du cœur. L'auteur lui-même disait, je cite, « J'ai guetté dans le cœur humain toutes les niches différentes où peut se cacher l'amour lorsqu'il craint de se montrer, et chacun ou chacune de mes comédies a pour objet de le faire sortir d'une de ces niches. » Et c'est Kléber Hédin ce qui disait « Les amoureux de Marivaux sont les premiers amoureux parfaitement purs de notre théâtre, car ils n'ont pas à lutter avec les lois de la cité ou de l'honneur comme dans Corneille, avec la facilité comme dans Racine, avec des pères avares ou des tuteurs jaloux comme dans Molière, non ?» Ils sont seulement aux prises avec eux-mêmes lorsqu'ils voient se révéler dans leur cœur un sentiment inconnu. Ce sentiment délicieux et cuisant que Marivaux ne se borne pas à si bien décrire, mais qu'il fait chatoyer sur scène à travers des personnages plus vivants que nature.
Un extrait sur Europe 1 de l'apothéose de Lully, interprété par l'orchestre English Baroque Soloist, dirigé par John Elliott Garnider. À tout de suite sur Europe 1 pour la suite au cœur de l'histoire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité, Franck, sur Europe 1, il s'agit de Françoise Rubellin. Elle est professeure à l'Université de Nantes. Elle est spécialiste de Marivaux. Elle a d'ailleurs publié une trentaine d'articles sur cet auteur et un livre, Marivaux dramaturge, la double inconstance, le jeu de l'amour et du hasard, aux éditions Honoré Champion.
Bonjour Françoise Rubellin.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir nous parler de ce Marivaux qui est un véritable mystère. C'est une énigme, ce bonhomme. On connaît bien, voire très bien son théâtre. On ne connaît quasiment pas ses autres œuvres. On va y venir, nous, aujourd'hui, notamment à toutes ses œuvres de jeunesse qui ne sont plus publiées ou quasiment plus. Et on ne sait alors vraiment pas grand-chose du personnage. Même sa date de naissance nous échappe.
En effet, c'est bien un paradoxe. Nous célébrons aujourd'hui le 250e anniversaire de sa mort. Mais que sait-on de sa vie ? Comme vous le dites, on ne connaît même pas sa date de naissance.
Alors on sait le jour de son baptême hein, quand même, donc ça donne quand même une indication.
On sait qu'il a été baptisé le 8 février 1688 et à partir de là, comme à l'époque on baptisait les enfants en général le 3e ou 4e jour, on a supposé qu'il était né quelques jours avant et puis rapidement l'habitude est devenue force de témoignage et on a dit qu'il était né le 4, mais personne n'en sait rien.
Alors on est en 1688, c'est-à-dire dans la dernière partie, le début de la dernière partie du règne de Louis XIV. Louis XIV ne mourra qu'en 1715, donc ça veut dire qu'au moment où Louis XIV meurt, notre Marivaux a déjà presque 30 ans. Hein, déjà, c'est un homme fait et il a publié déjà pas mal de choses. On va y venir dans un instant. On a pensé longtemps qu'il était né en Auvergne, à Rion, et en fait on sait maintenant qu'il est né à Paris plutôt.
Oui, il y avait même une plaque à Rion pendant longtemps pour indiquer que c'était un citoyen natif de la ville. En réalité, Marivaux est né à Paris et on pense qu'il a suivi son père lorsque son père a été nommé contrôleur de la monnaie à Rion. Et donc, il aurait passé en Auvergne, à Rion, une partie non de sa petite enfance, mais disons de son adolescence. C'est sans doute à partir de 10 ans, entre ses 10 ans et 18-19 ans, qu'il a dû rejoindre son père.
Alors il ne s'appelle pas Marivaux, ça aussi c'est quand même une surprise. Au départ il s'appelle Pierre Carlet.
Oui, tout ce qu'il y a de plus simple, Pierre Carlet, aucune particule, un nom simple. Son père, Nicolas Carlet, était officier de marine, a été envoyé en Allemagne pendant la première enfance de Marivaux, puis a eu cet office à Rion. Et sa mère, Marie-Anne Bullet, était la sœur d'un architecte du roi, ce qui va permettre d'introduire le jeune futur Marivaux dans des milieux un peu plus nobles et proches du pouvoir que ce à quoi elle destinait sa naissance simple.
Alors, lorsqu'on regarde dans les dictionnaires, on trouve toujours comme nom Marivaux, entre parenthèses, Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux. En fait, que faut-il penser de ces deux particules et notamment de ce nom de Chamblin? Ça vient d'où, ça?
Eh bien, merci de me poser la question. En fait, il faudrait enlever Chamblin de la plupart
des
dictionnaires et des encyclopédies, parce que Marivaux n'a jamais signé comme ceci. Il avait un cousin qui s'appelait Chamblin, et ce sont des catalogues de libraires qui ont accolé Chamblin à Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux. Pierre Carlet s'appelle Pierre Carlet pendant assez longtemps, et c'est seulement en entrant à la faculté de droit qu'il va commencer à s'annoblir en signant De Carlet, Pierre De Carlet. Et puis, il va signer pour la première fois, du moins à notre connaissance, Pierre Carlet de Marivaux en 1716.
Alors, ça vient d'où ce nom de Marivaux? Où est-ce qu'il est allé chercher ça?
On a beaucoup cherché, justement, d'où pouvait venir ce nom. On sait qu'il y a eu plusieurs familles qui s'appelaient Marivaux, un noble, on a trouvé aussi un marchand de vin qui s'appelait Marivaux, écrit EAU, mais personne ne sait
d'où ça vient
vraiment. A-t-il eu connaissance d'une famille? Ça fait partie des mystères qui entourent encore la vie de Marivaux.
Il y avait une rue Marivaux à Paris avant, donc peut-être que...
Oui, on a signalé qu'il y avait une rue Marivaux qui aurait pu l'influencer. Mais c'est quand même étonnant qu'un écrivain de cette importance choisisse simplement le nom d'une rue. Je pense qu'il connaissait les familles qui avaient donné le nom à la rue.
Alors son père n'était pas quelqu'un de très recommandable, disons-le. Hein. C'était un fonctionnaire de mauvaise... on va dire qui n'était pas très sérieux, qui avait tendance à boire beaucoup.
Ce sont les quelques témoignages qu'on a sur le contrôleur de la monnaie de Rion. Il a eu plusieurs affaires qui l'ont vraiment menacé, qui l'ont ennuyé. Et on rapportait qu'il était souvent pris de vin, mais là encore, ce sont des témoignages, des rapports, et on ne peut rien savoir exactement. Toujours est-il que dans l'œuvre de Marivaux, la figure du père n'est jamais celle d'un ivrogne. Donc je me garderai de vous jurer que son père était un méchant alcoolique, et Marivaux a plutôt présenté des pères bons, mais ça ne prouve rien non plus.
Non. Alors, que sait-on des études de Marivaux? Qui l'a formé? Chez qui est-ce qu'il a forgé cet esprit tellement fertile et tellement précis?
Il est difficile d'y répondre de manière concise, puisqu'on suppose donc qu'il est allé en Auvergne entre ses 10 ans et ses 18 ans, et qu'il a fréquenté le collège des oratoriens.
Les oratoriens, c'est une école assez, assez dure, hein, il faut dire. Hein,
oui, les deux grands collèges, c'était les jésuites et les oratoriens. Mmh. Et les oratoriens étaient relativement austères. On a connaissance du catalogue de la librairie, de la bibliothèque des oratoriens, mais qu'est-ce qui nous dit que Marivaux a lu les livres qu'il y avait dans la bibliothèque de ce collège ? Donc on ne peut pas vraiment savoir. Mais il me semble pouvoir répondre, à partir de l'œuvre de Marivaux, et notamment de ses premiers romans, que Marivaux s'est beaucoup formé, on dirait aujourd'hui à l'école de la rue, en observant les gens qu'il fréquentait, et quand il était en Auvergne, en observant particulièrement bien le monde paysan. En effet, dans ses premiers romans, on voit une description des mœurs campagnardes qui est absolument savoureuse et qui ne semble pas du tout fruit de ses lectures.
Un extrait sur Europe 1 de l'entrée de paysans composé par Jean-Joseph Mouret. On vous retrouve, Franck, avec votre invité aujourd'hui.
Marivaux suit des cours de droit. Il se destine lui aussi à une carrière de fonctionnaire.
On ne sait pas exactement si c'était une vocation ou si c'était un ordre parental. En réalité, on sait qu'il va quitter l'Auvergne vers 18 ans environ, 18-19 ans, monter à Paris et prendre en effet des inscriptions à la faculté de droit de Paris. Premières inscriptions, sans doute vers 20-21 ans, on a retrouvé la trace de ces inscriptions. C'est Marie-Jeanne Durie qui l'a retrouvée. Mais ces études ne sont pas très sérieuses.
On n'a pas l'impression qu'il soit très assidu dans tout ça.
Non, parce que comme les registres sont bien tenus, il ne se présente pas toujours aux examens. Et c'est seulement à 33 ans qu'il va obtenir sa licence en droit. Il s'inscrit à 20-21 ans. Et c'est seulement beaucoup plus tard qu'il reçoit le baccalauréat de droit et la licence de droit qui lui permet d'être avocat.
Comme vous l'avez dit, la véritable école de Marivaux, c'est l'école de la société. Il regarde ses contemporains, un peu à la façon dont Goldoni le fait de son côté à Venise. Il y a cette volonté quasi naturaliste, si j'ose employer le terme, en tout cas d'observation sociale et de restitution de quelque chose de très naturel et de très quotidien. Ça, c'est une nouveauté dans le théâtre.
Oui, et avant d'être même sa spécialité dans le théâtre, on sait qu'il commence, avant d'écrire du théâtre, à écrire des feuilles de journaux. On parle des journaux de Marivaux, mmh. et des petites feuilles, des petits articles, et puis après des feuilles périodiques qu'il s'engage à livrer tous les 15 jours. Et la plus célèbre de ces feuilles s'appelle justement « Le spectateur français ». Il est spectateur de ses contemporains. Et écrit dans ses feuilles de nombreux portraits satiriques.
Quels sont les autres écrits de jeunesse de Marivaux où s'est forgé ce style qui va devenir tellement extraordinaire et célèbre ? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, Franck Ferrand et son invité s'intéressent aujourd'hui à Marivaux.
Que savons-nous de la toute première pièce écrite par Marivaux ? Est-ce qu'on peut l'identifier, celle-là ?
La toute première pièce écrite par Marivaux, en tout cas celle qui nous est parvenue comme toute première, s'appelle « Le père prudent et équitable mmh. » et elle ne ressemble pas du tout à ce que sera le futur théâtre de Marivaux. Il y a une petite préface.
Quelle date à peu près, on sait ?
On pense qu'elle a été écrite vers 1710,
oui,
publiée un petit peu après.
Donc, toute fin du règne de Louis XIV. Là.
Et elle est présentée par l'auteur lui-même comme une sorte de pari. Il dit qu'il avait fait le pari d'écrire très rapidement une pièce. Cette pièce est une sorte de pâle imitation de Molière ou de Regnard. Et elle n'annonce rien de son théâtre futur. C'est plutôt un jeu de potache. Je pense qu'il faut surtout évoquer, pour les premières compositions de Marivaux, ce qui constitue aujourd'hui un volume de la Pléiade intitulé « Œuvres de jeunesse ».
Alors voilà. Et quelles sont-elles, ces œuvres ? Ce ne sont pas des pièces, en fait.
Non, ce ne sont pas des pièces. Et puis, « Œuvres de jeunesse », entendons-nous bien sur le mot « jeunesse ». Parce que ce sont des œuvres écrites quand Marivaux a entre 20 et 30 ans. Mais si vous prenez un Rimbaud à 30 ans, c'est la sénilité.
C'est fini depuis longtemps, oui.
Alors la jeunesse de Marivaux, c'est une étiquette qui ne va que si on considère qu'il a beaucoup à écrire ensuite.
Ce qu'on appelle œuvre de jeunesse, c'est tout ce qui vient avant les pièces célèbres, tout simplement.
Exactement, c'est tout à fait ça. Alors parmi ces œuvres de jeunesse, un premier roman, écrit en 1712, « Les effets surprenants de la sympathie ». Roman très romanesque, histoire très compliquée à la mode des grands romans, du XVIIe siècle.
Des grandes aventures picaresques, un peu inspirées des aventures espagnoles.
Voilà, et surtout des aventures sentimentales, où on se perd avec des récits à tiroir, 5 ou 6 ou 7 histoires imbriquées les unes dans les autres. Marivaux s'est essayé à ce genre de roman qui se lisait encore, mais très vite, il écrit un deuxième roman, tout à fait différent, La voiture embourbée. La voiture embourbée, c'est tout petit et très moderne. Regardez comme c'est ingénieux. Des voyageurs qui ont un accident de carrosse, qui ne se connaissent pas, et pour passer la nuit en attendant qu'on répare leur carrosse, décident d'inventer un roman que chacun va continuer à tour de rôle. Ce n'est pas encore le cadavre exquis des surréalistes.
Ah non, mais on s'en est pas loin, hein.
Connaît ouais. Ce qui précède. Mais dans ce petit roman, Marivaux va explorer le lien très fort qu'il y a entre le narrateur et son récit. C'est-à-dire que la jeune fille est la plus drôle, la vieille femme fait des choses très romanesques, le vieux financier est très libidineux et le jeune homme brillant raconte des choses à la mille et une nuits qui étaient à l'époque très à la mode.
Il aime en fait jouer avec le récit et jouer avec l'écrit. Il va écrire des parodies aussi. Hein.
Et oui, parce que le deuxième ou le troisième, on ne sait pas exactement, c'est Farsamond ou les nouvelles folies romanesques. Et cette veine parodique est essentielle pour comprendre que Marivaux, même dans ses moments les plus sentimentaux du théâtre ou des romans, a toujours un regard sur ce qu'il écrit, une distance. Il aime la parodie et il va le prouver en écrivant non seulement un roman parodique, Farsamond ou les nouvelles folies romanesques, des folies romanesques, c'est une sorte de Don Quichotte, et puis ensuite un Télémaque travesti où il réécrit l'histoire de Télémaque mise à l'honneur par Fénelon.
Par Fénelon, alors on était dans la grande littérature extrêmement sérieuse et d'un seul coup, lui, il distord tout cela et il essaie de faire rire avec Télémaque.
Et oui, parce que dans le Télémaque travesti, on n'est plus en Grèce et chez le fils d'Ulysse, on est à la campagne qui a l'air bien française et on raconte comment on nettoie les pots de chambre dans les auberges, etc. Donc on est dans le concret, une forme de burlesque encore, ce n'est pas vraiment du réalisme puisque c'est un peu exagéré, mais c'est quand même une attention au réel. Le Télémaque travesti en prose et troisième production extrêmement parodique, l'Homère travesti. Écrit en 1714-1715, publié en 16, l'Homère travesti, c'est une réécriture de l'Iliade d'Homère, en réalité de l'Iliade de Lamothe, qui était une réécriture d'une autre Iliade.
On s'attaque à un des textes les plus sacrés qui soient, bien entendu, et les plus anciennement respectés.
En effet, parce que Marivaux écrit cela au cœur de ce qu'on appelle la seconde querelle des anciens et des modernes, dite aussi la querelle d'Homère. Et Marivaux, dès lors, prend franchement parti pour les modernes. Il est dans le camp des modernes, avec Lamothe, par exemple, Lamothe qui avait osé réduire les 24 chants de l'Iliade à 12 et prétendre que Homère était quelquefois un peu long ou un peu ennuyeux. Donc ça fait scandale. L'Homère de Lamothe fait scandale, mais ce que fait Marivaux, c'est qu'il va, il ne connaît pas le grec, il va reprendre l'adaptation de Lamothe et en faire un récit tout à fait grivois, scatologique. Je vais donner un exemple. Et je gage que nos auditeurs n'auraient jamais deviné que c'était du Marivaux.
C'est du Marivaux.
Il s'agit du célèbre songe d'Agamemnon. Donc dans l'Iliade, le roi Agamemnon rêve qu'il va prendre la ville de Troie. Et dans la parodie, le travestissement de Marivaux, ça devient ceci. « Mais son réveil fut la ruine du pot contenant son urine. Ce pot sur une chaise était. Il chut. » Quand il se transportait, un valet entra dans sa chambre, qui certes ne sentait pas l'ambre. Il se boucha le nez et dit « Atride a pissé dans son lit ».
Et ça aussi, c'est Marivaux.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 à Marivaux.
Tout à l'heure, pour commencer cette émission, je parlais de Watteau. On connaît l'œuvre célèbre de Watteau, l'enseigne du marchand Gersin, où l'on voit d'un côté, à gauche, les valets en train d'empaqueter de grands tableaux très officiels, un peu compassés du grand siècle. Et puis, à droite, d'autres valets en train de sortir des caisses, toutes sortes de petites scènes extrêmement vivantes, extrêmement modernes. Il y a une sorte de vent nouveau qui souffle avec la Régence et avec, après la mort de Louis XIV. Il y a un goût, un emballement pour ce qui est quotidien, pour ce qui est vivant, pour la modernité dont un des porte-enseignes va devenir Marivaux, Françoise Rubellin.
Oui, dans la querelle nouvelle des anciens et des modernes, Marivaux a clairement pris parti du côté des modernes avec son Homère travesti, puisque c'était sacrilège de s'en prendre à Homère. Et ce faisant, en même temps, il rappelait qu'au XVIIe siècle, Scarron avait déjà écrit un Virgile travesti, qui est son modèle en quelque sorte. On peut considérer que ses premières œuvres sont une sorte de laboratoire pour ce que nous connaîtrons ensuite.
Oui, ce à quoi on arrive maintenant. Alors, au début de la Régence, en 1717, il se marie avec une certaine Colombe Boulogne. Cette Colombe est la fille d'un avocat, d'un riche avocat, puisqu'elle apporte avec elle une grosse dot. Mais on ne sait pas exactement quelles sont les circonstances de leur rencontre, en vérité. Ce que vous avez découvert, c'est qu'en vérité, elle était enceinte au moment où ils se marient.
Eh oui, la connaissance de la vie de Marivaux s'est faite très progressivement. On appris beaucoup de choses au XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, grâce à des chercheurs qui ont voulu absolument sortir de ce mystère et trouver quelques pièces de poids pour refaire la vie de Marivaux. Alors on connaissait déjà ce mariage, en effet, avec Colombe Boulogne, mais on savait seulement qu'elle était âgée de 5 ans de plus que lui et qu'elle était plus riche que lui. Si bien que on n'avait pas hésité à dire que c'était sûrement...
Et les racontars.
Un mariage d'intérêt. Et on n'en savait rien, mais il se trouve que il n'y a pas très longtemps, on a retrouvé l'acte de baptême de la fille de Marivaux. En effet, Marivaux, très peu de temps après son mariage, a une fille. Alors, dans tous les livres, on dit qu'elle est née en 19, mais non, elle est née le 24 janvier 1718.
Ce qui veut dire qu'au moment du mariage de ses parents, eh bien, elle était déjà conçue.
Voilà, une belle conception prénuptiale. Voilà. Marivaux s'est mariée parce que sa femme était enceinte de 3 ou 4 mois. Et c'est peut-être pour ça aussi, par crainte des racontars, car à l'époque, rappelons que la vie avant le mariage n'était pas recommandée. Et dans ce milieu-là, ben, on peut imaginer que ça déplaisait à l'entourage. Donc il a fait baptiser sa fille, non pas à Paris, mais en proche banlieue.
Il sera veuf assez vite, hein. Elle meurt en 1723, elle.
Autre sujet, en effet, d'énigme. Marivaux perd sa femme après seulement 6 ans de mariage et ne se remarie jamais. Et certains biographes, qui ne sont pas de vrais biographes et qui sont plutôt des critiques de Marivaux, se plaisent à penser que dans ce milieu du théâtre, comme on sait, avec toutes ces actrices, Marivaux a sûrement
eu... Sylvia, de la comédie italienne notamment.
Voilà, de multiples... Certains même écrivent de multiples liaisons, on n'en sait absolument rien. Et il est vrai que Marivaux va écrire pour l'actrice Sylvia des rôles absolument magnifiques. Mais la seule relation qu'on puisse connaître écrite, c'est juste une lettre à Sylvia pour sa fête. Et on en tire tout, je dirais bien aussi n'importe quoi. Donc, on sait que cet auteur est veuf, qu'il admire Sylvia, que Sylvia l'inspire, et de même qu'il lui écrit de très beaux rôles, mais tout le reste n'est qu'invention.
Alors ça, c'est fascinant, parce qu'à travers Sylvia, ce sont tous les comédiens de la comédie italienne qui apparaissent. Marivaux est à la croisée des chemins, en quelque sorte. Il est à la jonction de ces deux grandes troupes, comédien français d'un côté, comédien italien de l'autre. Et on peut dire que son art, ses pièces vont constamment hésiter entre les deux. Ce sont deux mondes, deux univers très différents à l'époque, la comédie italienne et la comédie française.
Imaginons que nous sommes en 1719 à Paris,
voilà,
et que nous voulons aller au théâtre. Eh bien, contrairement à aujourd'hui, on ne peut aller qu'à la comédie française, qui existe depuis 1680, ou à la comédie italienne, qui a longtemps été fermée et qui a rouvert en 1716. J'exclus des théâtres non officiels qui ont lieu qu'épisodiquement, les théâtres de la foire, que Marivaux fréquentait, mais pour lesquels il n'écrit pas, qui ont lieu en février-mars et
au moment du carnaval,
juillet-août.
En fait, oui.
Mais qui sont
très
des lieux de spectacle, oui, non officiels, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas une subvention du roi. La comédie française, c'est le grand théâtre académique. Et Marivaux, quand il commence à écrire pour le théâtre, mis à part l'anecdote de son Paris de jeunesse, va d'abord écrire une tragédie. On ne le sait pas tellement puisqu'on associe son nom à la comédie. Mmh. Une tragédie, Hannibal, qu'il porte aux comédiens français. Les comédiens français le feront attendre plus d'un an avant de la jouer. Et cette pièce, jouée en 1720, est un échec. La mort d'Hannibal est un échec. Mais avant juste qu'elle ne soit jouée, il a aussi porté à l'autre théâtre, la comédie italienne, une petite pièce qui s'appelle Arlequin poli par l'amour, après une autre qu'on a en partie perdue, qui s'appelait L'amour et la vérité. Mais L'Arlequin poli par l'amour, c'est la première pièce entière que nous ayons conservée de lui. Et cette pièce va réussir. Et réussir tellement bien que désormais, pour plusieurs années, Marivaux n'écrit que pour les Italiens. Il faut peut-être aussi préciser ce qui différencie la comédie française et la comédie italienne dans le jeu. Mmh. Donc pour dire rapidement, la comédie française, c'est d'abord vraiment un théâtre de textes. On apprend les textes par cœur, ce sont des textes d'auteurs qu'on va réciter, comme aujourd'hui. Mais à la comédie italienne, c'est bien différent.
Il y a une part pour l'improvisation qui est grande.
Oui, et puis à la comédie italienne, on joue de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée. Les valets, qu'on appelle les zanni, comme Arlequin, font des mimiques, des pitreries, des acrobaties.
Et d'ailleurs, quand on regarde le texte d'Arlequin poli par l'amour, dont vous parliez, donc de cette première comédie de Marivaux, on se rend compte que les indications scéniques, les didascalies, sont extrêmement longues et que très souvent, Marivaux dit il fait quelques fantaisies, il mime tel ou tel animal.
Il égaye cette scène de tout ce que son génie pourra lui inspirer. Et cette phrase, elle est remarquable parce qu'elle nous montre, et à mon avis, c'est ça qui a fait la réussite des pièces de Marivaux, l'interaction incroyable entre un auteur et des acteurs. Marivaux n'écrit pas en regardant le ciel, la plume à la main, en attendant que la muse l'inspire. Il regarde jouer ses acteurs et il se dit qu'il faut écrire des rôles qui leur conviennent. Arlequin pour les rôles comiques, Sylvia et Flaminia pour les rôles des premières amoureuses.
Et il y a une tendresse pour les comédiens. On voit que c'est peut-être un des secrets du théâtre de Marivaux et ce qui nous le rend encore aujourd'hui tellement proche et tellement sympathique, c'est qu'on a l'impression que ça a été ciselé pour une troupe et que tout est fait, tout est mis au service des comédiens en vérité.
C'est ce qu'on a pu écrire à l'époque. Le fait que Marivaux ait su écrire des dialogues qui conviennent si bien à Sylvia et à Flaminia et à Lélio. Les premiers rôles, premier amoureux, première amoureuse, deuxième amoureuse, c'est ainsi qu'on se répartissait ses emplois de théâtre. Et le fait aussi que Marivaux ait su tellement bien fournir des situations pour Arlequin qui faisait le contrepoids comique aux scènes d'amour, non pas tragiques, mais quand même sentimentales et intenses, c'est cette rencontre avec ces comédiens qui a fait la magie de ces premières pièces de Marivaux. Et ce qui a changé radicalement par rapport à avant, c'est que Marivaux a pu écrire des textes pour ces acteurs qui, jusqu'en 1718, jouaient beaucoup en italien, ou souvent moitié français, moitié en italien, mais avec beaucoup d'improvisation.
Je me dis en vous écoutant, heureusement qu'Hannibal n'a pas marché.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Marivaux, dont on célèbre aujourd'hui le 250e anniversaire de la mort, puisqu'il n'est mort qu'en 1763, même si l'essentiel de ce qui nous occupe se passe pendant la Régence et les toutes premières années du règne de Louis XV. En fait, il est mort tard, évidemment. Marivaux a laissé son nom au marivaudage, bien entendu. Alors, comment faut-il comprendre ce terme? Quelle est la signification exacte du marivaudage, Françoise Rubellin?
Il est bien difficile de vous donner une formule en 8 à 10 mots qui résume le génie de cet auteur. Génie d'ailleurs qui transparaît non seulement dans son théâtre, mais aussi dans ses romans, puisqu'on parle de marivaudage, par exemple, dans La vie de Marianne, un grand roman.
Qui est un très gros succès de l'époque. Hein.
Qui a paru, oui, à partir de 1731, en différentes parties, comme des épisodes, un peu d'un feuilleton, où Marianne raconte sa vie. Le marivaudage, je pense qu'il faut distinguer une sorte d'acception tout à fait commune, un peu péjorative du mot, qu'on trouve encore aujourd'hui, par exemple, pour critiquer un film de Romère, on va dire c'est du marivaudage.
C'est-à-dire un badinage sans fond, finalement.
Voilà, un badinage, c'est surtout l'idée qu'il n'y a pas d'action et qu'on parle à perte de vue de problèmes sentimentaux. Et ça, c'est une acception négative.
Et qui est assez éloignée de ce à quoi on assiste lorsqu'on lit une pièce ou lorsqu'on assiste à une pièce de Marivaux, hein, puisqu'on est toujours loin d'un propos décousu ou dépourvu de sens, loin de là.
Hein.
Il y a une grande économie chez l'auteur.
Et oui, parce que ce marivaudage avec une connotation un peu négative, bien sûr, était déjà là au XVIIIe siècle. On employait déjà le mot. On a longtemps cru que ce mot avait été inventé par Diderot et pendant longtemps, c'était sous la plume de Diderot qu'on rencontrait
la première occurrence, c'était en 1760, c'est-à-dire juste avant la mort de Marivaux. Alors qu'en fait, on se rend compte, et lorsqu'on lit la correspondance de Madame de Graffigny, que vous nous recommandez d'ailleurs, beaucoup, puisqu'elle parle longuement et à bien des reprises de Marivaux. Dans cette correspondance de Madame de Graffigny, il est question de marivaudage dès 1739, nous dites-vous.
Et oui, le terme, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, mais le terme finalement est apparu au moins en 1739, quand Madame de Graffigny, une très célèbre femme de lettres, dramaturge, épistolière, romancière, écrit à son correspondant « Quelle légèreté de style, ta lettre est un tissu de Sévigné rebrodé de marivaudage ». Et on comprend, avec cette première apparition du mot, que marivaudage égale légèreté, style, tissu, c'est très négatif. Et puis c'est elle aussi qui emploie, au moins pour ce que nous connaissons aujourd'hui, pour la première fois, le verbe.
Marivaudée.
Et elle dit à son correspondant en 1743, « Je me réjouis déjà de jeudi, mon crébillon y sera, je le ferai un peu marivauder, cela est charmant. » Donc que signifie marivaudage à l'époque? C'est parler à la manière de Marivaux, c'est une façon d'utiliser la langue, le dialogue, les compliments, c'est un style assez précieux et les détracteurs disent un style entortillé. Ils disent même aussi ce mot de métaphysique, un langage métaphysique, on va même jusqu'à dire un jargon. Et ça, c'est l'acception négative de marivaudage.
Et c'est ce qui va faire d'ailleurs que Marivaux n'entre qu'assez tard, en 1742, à l'Académie française, parce que les académiciens se méfiaient des associations de termes de Marivaux. C'est lui qui a eu le premier l'idée de dire, de parler, de faire parler son cœur, l'idée de mettre en valeur. Enfin, tous ces glissements de sens et toutes ces expressions qui n'étaient pas considérées comme très pures à l'époque, en vérité.
Mais absolument, parce que Marivaux a essayé, le succès venant, d'entrer à l'Académie française plusieurs fois. Et par exemple, en 1736, il est refusé en ces termes. « Notre métier à l'Académie est de travailler à la composition de la langue. Et celui de M. de Marivaux est de travailler à la décomposer.
» Alors, à propos de langue décomposée, je vous propose d'écouter un très charmant air de l'époque.
« Par le fumet de ses chapons, par ses gigots, par ma poularde, par la liqueur de ses flacons, par nos ragouts à la moutarde, par la vertu de ses jambons, je te conjure, âme gourmande, de venir avaler la viande que dévorent tes yeux gloutons. »
La viande que dévorent tes yeux gloutons, c'est ça, c'est bien ce que j'ai compris.
Exactement. Ce que nous écoutons, c'est un air qui était chanté dans La double inconstance, en 1723, une des pièces les plus célèbres de Marivaux, qu'on jouait beaucoup à l'époque. Et ça me permet de rappeler que les pièces de Marivaux étaient agrémentées de ces divertissements en musique, dans ces chantés, souvent entre les actes, quelquefois même au cœur des actes. Et il est bien dommage que la plupart du temps, on ne les rejoue pas aujourd'hui, puisque nous avons toutes les partitions. Le musicien, c'était Jean-Joseph Mouret, et toutes les partitions sont conservées.
Mais on a tendance parfois à jouer Marivaux d'une façon assez sèche, presque à contre-pied depuis longtemps, hein, déjà depuis 50 ans malheureusement. Hein.
Ah oui, ça c'est un vaste débat mais dans lequel nous n'allons pas nous engager aujourd'hui. Mais ce que je veux dire avec ce divertissement qu'on vient d'entendre, c'est que les parties chantées et dansées qu'il y avait entre les actes avaient leur rôle dans la dramaturgie de Marivaux. Et par exemple, par le fumet de ses chapons, par ses gigots, par la poularde, c'est un traiteur à la fin de l'acte 1, qui vient proposer des plats à Arlequin pour le dissuader de rester amoureux de Sylvia. Et le prince est amoureux de Sylvia, veut le séparer. Alors l'idée, c'est qu'on va le tenter avec des bons plats. Arlequin étant un
adolescent.
Surtout un amateur de viande et de vin un goinfre. Et après, ce sera un prétexte pour Sylvia qui dira « Bah oui, je ne peux plus rester avec Arlequin parce qu'il ne pense qu'à manger ». Et donc là, on voit aussi comment la construction dramatique, ce n'est pas seulement que le langage, mais comment c'est imaginé tout ça pour faire qu'en 2 heures, dans la double inconstance, un couple se sépare et 2 autres se forment.
C'est-à-dire que sous la transparence, sous la simplicité apparente, il y a en vérité tout un mécanisme extrêmement subtil chez Marivaux.
Et oui, et nous revenons au marivaudage, puisque le marivaudage, c'est la langue, mais c'est aussi une façon de construire une intrigue, d'organiser un dialogue. Alors pour la langue, on lui a reproché de la déconstruire, mais vous le citiez vous-même. En fait, Marivaux, certes, avait employé quelques néologismes, mais surtout, il faisait des alliances de mots assez saugrenues. Et c'est ça qu'on reprochait au marivaudage. Par exemple, il disait « mettre en valeur ». Mais aujourd'hui, tout le monde dit « mettre en valeur ». Ou il inventait l'adverbe « fictivement », le substantif « une scélératesse ». On lui a même reproché d'avoir inventé « tomber amoureux ». Or, ça, je suis fier de pouvoir l'indiquer à tout le monde, ce n'est pas Marivaux qui a inventé « tomber amoureux », même
hélas,
si c'est tous ses contemporains le lui ont reproché en disant « on dirait une maladie ». C'est au moins 30 ans avant Regnard qui employait déjà cette expression.
Alors, nous faisons déjà un petit effort aujourd'hui, puisque nous parlons de Marivaux entre 13 et 14 heures sur Europe 1. Regnard, ce sera pour la semaine prochaine ou pour je ne sais quand nous pourrons.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et jusqu'à 14 heures, nous parlons de Marivaux avec un nouvel invité, Franck.
Nous avons en ligne non pas Marivaux en personne, mais son meilleur interprète à tous les sens du mot interprète, le comédien et metteur en scène Jean-Laurent Cochet en personne. Bonjour cher maître.
Bonjour Franck, je suis content de vous entendre.
Mais moi aussi, ô combien, vous avez souvent eu l'occasion de jouer Marivaux et de le mettre en scène. Alors commençons peut-être par l'interprétation. Est-ce que c'est un auteur facile à jouer ?
Ah, c'est un des plus difficiles.
Oui.
S'il n'y avait pas Musset, qui est beaucoup plus difficile pour d'autres raisons qu'on ne va pas détailler ici, avec Racine, Marivaux, ben c'est le plus difficile parce que c'est le plus nombreux, le plus varié, le plus complet, le plus riche. Vous savez, il est exactement, quand on vit avec ces gens-là au jour le jour, car c'est mon cas, que ce soit au cours où je le fais travailler ou quand je le mets en scène, Marivaux, on se rend compte que c'est l'aboutissement de tout un classicisme.
C'est ça.
Il contient absolument en lui-même, c'est la quintessence de tout ce qui a précédé. Et puis, surtout, c'est non pas que le mot ait un sens pour moi particulier, je ne recherche pas systématiquement le modernisme, mais c'est le premier grand auteur moderne, aussi bien dans la langue que dans la psychologie. C'est étonnant parce que on est en face de la perfection du style et déjà il y a dans les sentiments une imagination, alors qu'il est complètement, il est plus que sensuel, c'est un auteur sexuel vraiment, Marivaux.
Oui, il y a quelque chose de sensitif.
Oh, mais c'est incroyable, derrière toute la dentelle, derrière tout le charme, il y a ce qu'il y a de plus osé, si je puis dire, dans la Régence, et puis dans les caractères de femme surtout, il est d'une profondeur, d'une observation.
Et alors,
oui.
En même temps, une fraîcheur et une simplicité qui ont l'air absolument transparentes.
Ah mais c'est la transparence même, et c'est bien pour ça, justement, vous me demandiez, c'est pour ça que c'est le plus difficile.
Ah oui.
Parce qu'il faut aller chercher un petit peu comme dans, ça paraît un peu inattendu, mais un petit peu comme dans Guitry, qui disait lui-même de ses pièces, mes pièces se respirent profond, large et se jouent léger, bah c'est exactement la même chose pour Marivaux. Il faut prendre ses appuis d'imagination, ses appuis de pensée, ses appuis de sensation très profond, très loin, et puis après il faut que ça se joue, non pas comme du champagne, comme on l'a dit trop souvent, parce que c'est ce qui en a fait un auteur quelquefois un petit peu
galvaudé, mal compris.
Galvaudé,
oui.
Exactement, le mot marivaudage n'a aucun sens, ce qu'il a été utilisé. C'est-à-dire que c'est léger, mais c'est d'une puissance extraordinaire.
Et c'est en même temps à mi-chemin entre deux traditions, puisque l'influence de la commedia dell'arte et de la comédie italienne se font constamment sentir.
Constamment, c'est ça qui est extraordinaire. Au point d'ailleurs, quand on ne le sait pas, et c'est relativement secondaire, on ne sait pas toujours démêler, tellement il les a entremêlés lui-même, les origines de la comédie dell'arte et du pur théâtre français, parce que c'est d'une finesse. Je ne sais plus qui disait, c'est là quelqu'un de très grand, j'ai oublié, ce qui est exact ne peut être que fin. Et c'est exactement le théâtre de l'exactitude. Il n'y a pas un mot qui ne soit un trait de caractère, qui ne soit, et toujours en situation, jamais gratuitement.
En fait, dans Les Fausses Confidences notamment, qui est donc une des pièces que vous avez non seulement jouées mais mises en scène et que vous inculquez, si je puis dire, à vos élèves, entendu.
Ouais.
Dans Les Fausses Confidences, on est dans une sorte de bascule permanente entre une histoire qui a l'air relativement limpide, relativement simple, et puis toutes sortes d'intentions. Comment est-ce qu'on arrive à interpréter ça?
C'est presque Pirandellien.
C'est
absolument étonnant. Ah oui, ça, Les Fausses Confidences, pour moi, bon, la plupart de ces pièces sont des chefs-d'œuvre, mais pour moi, c'est la plus grande. Alors celle-là, je la connais depuis toujours, si j'ose dire, parce que je suis entré au conservatoire dans le rôle de Dubois, j'en suis ressorti, j'ai mépris à l'unanimité dans le rôle de Dubois. C'est une des premières pièces que j'ai jouées après, et je dois dire que j'ai continué à la jouer très tard, et je pense que même si maintenant il fallait encore la jouer, comme le rôle n'a pas d'âge, je ne l'attribuerai pas à un autre. C'est étonnant, Les Fausses Confidences, ben, le titre le dit, c'est extraordinaire parce que ce ne sont que des mensonges pour mieux servir la vérité de l'amour. C'est entremêlé. Les scènes sont construites par ce valet qui est une espèce de démiurge. Je me souviens, Henri Roland disait, n'oublie jamais Dubois comme Dieu. C'est le deus ex machina de la pièce. Il construit toute une pièce pièces qu'il invente pour mieux servir les intérêts de son maître et d'Araminte. C'est entortillé, entre guillemets, d'une manière confondante. À jouer, c'est redoutable. On passe sans arrêt d'une réplique dont on se dit, mais attends, celle-là, il l'a dit au premier degré, ou celle-là, il est déjà dans le jeu, dans la comédie du mensonge vis-à-vis de l'autre. C'est diabolique.
Vos jeunes élèves, aujourd'hui, éprouvent toujours la même passion pour Marivaux ?
Ah, la même passion. J'avais ce matin cours avec eux, et je leur ai fait travailler le premier acte, le jeu de l'amour et du hasard. Il y en a certains qui sont d'une qualité absolument incroyable. J'ai rarement eu une équipe comme ça à mon cours, et ils en ont l'intelligence, ils en ont la fraîcheur la plupart, mais ils en ont surtout la profondeur, la sensibilité, mais il y a quand même une petite difficulté pour eux, et on travaille beaucoup là-dessus, c'est le style, parce que à force d'avoir depuis quelques décennies, à force d'avoir laissé les choses se déliter dans l'éducation, ça, il y en a beaucoup qui n'arriveront jamais plus maintenant. Je crois que c'est un de ceux qu'on aura le plus de mal à représenter. N'arriveront jamais, à moins qu'on les représente, comme ça se fait très souvent, en les défigurant, en se traînant par terre, en assassinant Trivelin, ou des bêtises comme ça. On en a déjà vu, on en verra d'autres. Mais sinon, il y a justement, vous le disiez tout à l'heure, il y a dans ce style...
Une tenue, une élégance.
Une telle transparence. Il faut que ce soit tellement naturel, cette grâce, que certains ont du mal...
Merci infiniment Jean-Laurent Cochet. Je signale que vous venez de publier chez Pygmalion vos souvenirs libertins pour l'amour absolu du théâtre. Ça s'appelle « Mon Paris buissonnier ». Alors Françoise Rubellin, nous avons parlé du sentimental chez Marivaux. Il faut dire quand même que c'est aussi et d'abord un auteur comique.
Oui, il y a une énergie comique incroyable dans le théâtre de Marivaux qui disparaît souvent sous les étiquettes de préciosité qu'on colle un peu vite. Mais rappelons que ce travail sur la langue, cette langue nouvelle, ce langage dramatique qui cherche à rendre compte au plus près des méandres des sentiments, va totalement avec une forme de comique. Et je donne un exemple, puisque le marivaudage, c'est aussi la façon de rebondir sur les mots. Dans le jeu de l'amour et du hasard, Lisette est déguisée en sa maîtresse. Et M. Orgon lui dit « Il faudrait que tu lui dises un peu qui tu es ». Lisette répond « Mais si je le lui dis un peu, il le saura tout à fait ». Deuxième exemple, dans une autre pièce, Lisette s'aperçoit que sa maîtresse est infidèle. Et elle parle de l'ancien amant, elle dit « Mais le comte, est-ce que vous ne l'aimez plus ?» Et la comtesse, avec toute sa mauvaise foi, répond « Qu'appelez-vous plus ?» Ça, c'est le témoignage de l'amour propre. Un troisième et dernier exemple de ce travail sur les mots qui permet d'explorer justement aussi bien la mauvaise foi que la jalousie et autres, mais aussi même à Marivaux de revendiquer, en cela il est extrêmement moderne, en quelque sorte avant l'heure, une affirmation des droits de l'homme. Par exemple, dans Les Fausses Confidences, on dit au valet Arlequin de désormais d'obéir à un tel. Et Arlequin s'exclame « Comment, madame, vous me donnez à lui ?» Est-ce que je ne serai plus à moi ? Ma personne ne m'appartiendra donc plus ? On voit qu'avec ce jeu, cette façon de rebondir sur le verbe « donner », Marivaux interroge les liens sociaux entre le valet et la maîtresse. Et il a vraiment, j'aimerais terminer avec ça, mais pressenti l'évolution de la famille moderne, les débats sur les droits de l'homme dans la colonie.
Ce droit de la femme.
Et de la femme aussi. Oui. Dans la pièce La Colonie, les femmes revendiquent le droit non seulement de commander autant que leur mari, mais même d'être juges, en disant au moins comme ça la veuve et l'orphelin seront bien servis.
Françoise Rubellin, Marivaux dramaturge, c'est chez Honoré Champion et lecture de Marivaux aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup et j'espère que nous avons donné à nos auditeurs l'envie d'aller se replonger tout de suite dans Marivaux.